affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Je ne sais pas la façon dont est aujourd'hui enseignée la bataille de Bouvines à l'école primaire, mais dans mon enfance, à l'instar d'Alésia, du Sacre de Reims, de Marignan ou dans un autre registre de la prise de la Bastille, Bouvines faisait partie des éléments fondateurs de l'histoire de la nation française. Il est vrai que cette bataille du 24 juillet 1214 condensait en une journée tous les éléments constitutifs d'une certaine dramaturgie. Il y avait là un roi de France luttant pour constituer son royaume, un vassal indélicat, un empereur germanique et même de perfides anglais. Dans une remarquable unité de temps, de lieu d'action, c'est une sorte de condensé de l'histoire de France qui se jouait avec de surcroît un dénouement heureux, puisque par la grâce divine, le hasard ou la force des armes, les Français l'ont alors emporté. L'histoire était belle comme une victoire, et c'est la raison pour laquelle il est probablement nécessaire aujourd'hui d'y revenir, de la réévaluer, de démêler ce qui tient de relève de l'histoire et ce qui appartient à la légende. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Dominique Barthélémy, qui a récemment publié chez Perrin un ouvrage justement titré « La bataille de Bouvines, histoire et légende, légende au pluriel », car il y en eut beaucoup constitué aussitôt et au fil des siècles. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je précise que vous êtes professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et enfin que vous êtes membre... Non, pas membre, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Merci encore. Pour démarrer cet entretien, je voudrais savoir quel était l'élan initial, le facteur déclenchant qui vous a poussé à vous repencher sur cette histoire que l'on croyait connue de la bataille de Bouvines.
Alors, écoutez, l'élément déclenchant, c'est qu'elle a eu lieu en 1214 et que nous sommes dans une époque, dans un pays où on aime bien commémorer les grandes dates. Et donc, il y a eu en 2014 le 8e centenaire de Bouvines. Et ce 8e centenaire d'une bataille importante pour, en effet, l'histoire nationale de la France et pour l'histoire des guerres nationales, ce 8e centenaire coïncidait avec le centenaire. Anniversaire du début de la guerre de 1914-1918. Le 7e centenaire s'était déroulé, lui, en pleine crise de Sarajevo, et donc entre le 28 juin et le 27 juillet 1914. Donc il y avait cette activité. D'autre part, c'est vraiment l'objet principal de mes recherches, souvent dans le sillage de celle de Georges Duby, qui avait consacré il y a 45 ans un très beau livre, un très bel essai à la bataille de Bouvines.
Le dimanche de Bouvines.
Oui, le dimanche de Bouvines. C'est l'aboutissement normal d'études sur la chevalerie, sur les communes et sur le pouvoir royal et ce que j'aime appeler l'interaction féodale, c'est-à-dire le genre de relation en réalité assez complexe, assez sophistiquée, qui existait entre les rois et les barons, ou même dans une guerre entre les barons de deux camps adverses qui se connaissaient. Voilà.
Alors précisément, pour recontextualiser l'histoire de cette bataille, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelque sorte la physionomie, le paysage géopolitique dans lequel elle va se dérouler ?
Alors, on est donc dans ce milieu du Moyen-Âge, dans ce cœur du Moyen-Âge, où il n'existe pas encore en Europe de nation au sens moderne, et la guerre, la campagne guerrière qui se termine par la bataille de Bouvines, se déroule tout près de la frontière entre la France et l'Empire, on dirait plutôt la frontière des mouvances, puisque jusqu'à cette frontière, les seigneurs, grands ou petits, aussi dépendent du roi de France, ils sont ses vassaux ou arrière-vassaux, et de l'autre côté, les seigneurs dépendent de l'empereur. D'un côté, les églises sont protégées, un tout petit peu exploitées à l'occasion par le roi. De l'autre côté, elles sont protégées et mises à contribution par l'empereur. Et il y a dans l'une et l'autre de ces mouvances de grandes principautés, la Flandre est l'une d'elles, le comté de Flandre, et il a ce site particulier qu'il est dans une large mesure en France, donc relevant du roi de France de la dynastie capétienne, Philippe Auguste entre 1180 et 1223, mais qu'une partie de la Flandre se trouve malgré tout dans l'Empire. D'autre part, la Flandre est à proximité de l'Angleterre, il suffit de traverser le Pas-de-Calais, et Philippe Auguste a eu depuis le début de son règne maille à partir avec le roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lion puis Jean Santerre, qui possédait en même temps que l'Angleterre plusieurs principautés françaises importantes, Normandie, Anjou, duché d'Aquitaine. Donc, depuis le début de son règne, il y a des manœuvres politiques et guerrières assez compliquées, mais dans lesquelles, grosso modo, l'Angleterre essaye de faire des difficultés à la France en se servant du fait que l'un des empereurs rivaux, Othon de Brunswick, est le neveu des rois d'Angleterre, Richard Coeur de Lion, puis Jean Santerre. Et le roi de France, lui, essaye d'avaler la Flandre, de la réunir à son domaine comme il a fait de la Normandie, et c'est très compliqué pour lui, il n'y arrive pas, il y a une résistance flamande en réalité très forte.
Très bien, donc on est dans un cadre où on le voit, il n'y a pas de frontières établies, la notion même peut-être de frontières est un petit peu...
Alors si, il y a des frontières établies, mais elles ne sont pas l'objet de guerres et de conflits comme à l'époque moderne, si vous voulez. Chacun des deux souverains a plutôt maille à partir avec ses vassaux, a plutôt du mal à bien contrôler les choses dans sa mouvance.
Parce qu'à l'époque, peut-être important à comprendre, la Flandre, c'est un gros morceau.
C'est un gros morceau, et puis très riche, quand même, avec des villes drapantes, notamment, les unes proches du roi de France, parlant français, peut-être assimilables, ce serait Arras et Saint-Omer, qui ont formé l'Artois assez vite, et puis les autres, au contraire, un peu plus éloignés, parlant flamand, et c'est notamment Bruges, Gand, Ypres, une série de ces villes, et alors là, avec beaucoup de liens commerciaux avec l'Angleterre, une langue différente, des liens avec l'Empire, très 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 difficile à contrôler par les rois de France, très très, très résistantes.
Donc on est dans la situation où le roi de France souhaite donc avaler cette province,
oui, oui.
La ramener dans le royaume, mais se constitue une coalition.
Alors, Philippe Auguste, au début de son règne, a été assez actif et il est parti d'une situation de faiblesse relative. En tout cas, il avait moins de domaines que les Plantagenets, à la fois roi d'Angleterre et maître de plusieurs provinces. Et dans ces conditions, il bénéficiait de ce que j'aime appeler, ça existe souvent, mais c'est très net au milieu du Moyen-Âge, une viscosité du système. C'est-à-dire que quand l'un des partenaires politiques importants était un peu en position de faiblesse, en position de subir des pertes, volontiers toute une série de personnages venaient à son secours pour maintenir l'équilibre. Viscosité, c'est-à-dire que tout mouvement est contrecarré par plusieurs contre-mouvements. Mais donc au début, d'une certaine façon, Louis VII, père de Philippe Auguste et Philippe Auguste lui-même, bénéficiaient du fait que l'Angleterre et la Flandre ne s'entendaient pas très bien, que la Flandre n'avait pas envie de voir le groupe anglais l'emporter. Donc au début, les relations n'étaient pas mauvaises. Mais ensuite, au cours de son règne, Philippe Auguste a marqué des points. Il a combattu avec beaucoup d'âpreté quand même, plus peut-être encore par des intrigues que par des batailles, parce qu'il a perdu des batailles, mais ses intrigues étaient tellement bien ficelées qu'il a quand même progressé. Donc il a combattu contre les des Plantagenets, et plus il a marqué des points, moins il a eu de soutien du côté de la Flandre. Donc la Flandre, qui longtemps faisait plutôt équilibre à l'Angleterre, a fini par se coaliser à partir de 1196, et ensuite plusieurs fois, hein, je passe sur le détail, mais ça fait l'objet des premiers chapitres de mon livre, la Flandre a fini par se coaliser avec l'Angleterre d'une manière relativement dangereuse, il ne faut pas exagérer, mais relativement dangereuse pour le roi de France capétien, qui était vraiment centré sur le bassin parisien.
Et donc ça coagule avec le soutien anglais à la Flandre.
Oui.
Mais aussi le Othon, le germanique.
Alors,
que vient-il faire dans cette affaire, celui-ci?
Alors, ben ça, on se le demande. Hein. Il lui-même aurait eu. Donc, en fait, il n'y a pas, à cette époque, de lutte nationale entre la France et l'Allemagne. Hein, et en réalité, l'Allemagne est dans une situation politique très différente du royaume de France, puisque les empereurs ne sont pas vraiment héréditaires. Ils ont contrôler un espace plus vaste que celui du roi de France. Ils ont l'Italie, une grande partie de l'Italie du moins, pas entièrement, et également tout de même toute la partie orientale de la France actuelle. Hein. Un tiers oriental de notre pays dépendait de l'Empire. Mais il le contrôle de moins près. Chaque élection impériale est un peu compliquée. Et il y a donc en Allemagne, à ce moment-là, une lutte entre deux dynasties, la dynastie des Welfs, dont fait partie Othon, et la dynastie des Staufen. Comme les Welfs sont alliés par mariage aux Plantagenets, Othon, par sa mère, est le neveu du roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Eh bien, comme les Welfs sont alliés aux Plantagenets, évidemment, Philippe Auguste leur a fait, depuis des années, toutes les difficultés du monde, en prenant plutôt le parti des Staufen. Naturellement, il n'est pas intervenu militairement, mais il a envoyé de l'argent, des subsides, il a intrigué. Il a intrigué également beaucoup dans la Belgique actuelle, dans la Wallonie actuelle, avec l'évêque de Liège, ou même avec le duc de Brabant, dont une partie des sujets sont même parlant flamand, enfin, ne sont pas francophones. Donc, Othon, en réalité, est furieux de ce que Philippe Auguste lui fait des crasses en Allemagne depuis des années, et il a envie, sans doute, de faire un beau petit succès, de donner un petit coup de main. Et en outre, il est quand même très dépendant financièrement des subsides de l'Angleterre, donc il faut bien qu'il fasse un peu le job qui est d'aider la coalition animée par l'argent du roi d'Angleterre et dont le comte de Flandre est un élément important. Tandis que le roi d'Angleterre, lui, qui possède encore le sud-est de la France, mais alors en fief du roi, se trouve sur la Loire en 1214, essayant d'avancer ses pions en direction de l'Anjou, qui est en réalité sa région d'origine.
Très bien. Le cadre étant posé, on a compris cette notion de viscosité. On a un peu aussi une impression que dans ce système féodal, régi par des liens de vassalité, un code de loyauté, mais un peu élastique lui aussi,
oui.
Ce qu'elle laisse mettre en place, ce n'est pas quelque chose comme un affrontement entre États-nations, mais un petit peu comme quelque chose d'un peu théâtral. On affirme des soutiens, on fait des démonstrations de force, et pourtant, semble-t-il, ce jour de juillet 1214, ça dérape. Que se passe-t-il ?
Oui, alors donc effectivement vous avez tout à fait raison de rappeler le côté théâtral des choses. C'est un aspect qui est très bien mis en valeur dans le Dimanche de Bouvines de Georges Duby. Hein. C'est un grand progrès qu'il a réalisé, qu'il a permis de réaliser dans la conception de l'histoire de cette période. Les féodaux ne sont pas des grosses brutes qui tirent dans tous les sens, mais au contraire, ils ont une interaction assez subtile avec des affichages, avec des attitudes, des hypocrisies parfois, hein, parce qu'on feint l'affection et la sincérité avec des gens à qui, en réalité, on fait un petit peu des coups en dessous. Et donc, effectivement, dans les conflits qu'on a, la bataille est très rare, en réalité. Il y a, je dirais, deux éléments dans la guerre. D'une part, quelques troupes quand même frontalières se surveillent peuvent se surveiller tout au long de l'année. C'est ce qui s'est passé aux abords de la Flandre dans les années précédentes Bouvines, en faisant des petits raids, en faisant des petits sièges. Mais pour avoir une armée plus importante, avec quelques milliers d'hommes, hein, on atteindra peut-être 5-10 000 hommes maximum, hein, dans l'une ou l'autre des armées en présence à Bouvines. Donc, pour faire une campagne plus importante, il faut attendre l'été, hein, le moment où il y a des fourrages pour les chevaux, où on n'est pas dans les grandes périodes liturgiques de l'année non plus, même si c'est plus ou moins respecté. Et donc, en fait, les rois ont à peu près, disons, 2 mois pour faire des campagnes qui peuvent... ils peuvent s'avancer dans le territoire les uns des autres, mais ils peuvent difficilement rester s'ils n'ont pas sur place de soutien important. Un ex-beau-père de Philippe Auguste, le comte de Hainaut, dont la principauté avait été envahie de 3 côtés, disait très calme, très zen, disait à ses hommes, oh, vous savez, de toute façon, ils sont là, ils sont dans ma terre, mais ils ne peuvent pas repartir avec. Donc, je la récupérerai après. Et donc, c'est vrai, on ne peut pas repartir avec, on ne peut pas y rester. Donc, on peut toujours entrer un été, y faire des dégâts, et puis voilà, il faut repartir. C'est ce qui est arrivé avec Philippe Auguste et la Flandre. Mais alors, évidemment, au cours de ces opérations, c'est quand même un tout petit peu la guerre, il y a des escarmouches, il y a des sièges de position un petit peu périphérique, et une des spécialités des Plantagenets, d'un certain nombre de bons combattants, c'est l'attaque surprise sur une armée qui est en train de se replier, et notamment au passage d'une rivière. Ça, c'est un grand classique.
Un classique anglais, alors.
Oh, ça se fait de l'autre côté aussi, mais l'oncle d'Othon, Richard Cœur de Lion, faisait ça très bien. On sait que Othon aimait beaucoup son oncle Richard, et réciproquement, et je pense qu'Othon était habité par cette idée de faire aussi bien que son oncle, qui avait vraiment mis Philippe Auguste en difficulté à 2 reprises de cette manière, en 194 et en 198, à Frédéval et Courcelles. Donc, en juillet 1214, l'armée de Philippe Auguste, qui s'était avancée en Flandre, mais qui ne peut pas la garder de toute façon, est en train de se replier. On est dimanche, mais ça, bon, finalement, les gens, ils font assez peu attention. Ça compte quand même. C'est une critique qui a été faite après. Il y a quand même une rivière à passer, parce qu'il y a des marécages, hein, elle est petite, mais elle est là. Donc il y a un pont, c'est un goulot d'étranglement, il y a un étirement de l'armée de Philippe Auguste, et l'adversaire s'avance. Othon a sans doute envie de revenir vite en Allemagne, faire sa lutte avec les Staufen, mais il pense que ce serait une bonne idée, un petit coup de main sur l'arrière-garde de Philippe Auguste. Et je pense que les armées n'ont pas eu le temps de se mettre en place, mais soit Othon s'était trompé, soit le hasard a bien fait les choses pour Philippe Auguste. L'armée de Philippe Auguste n'était pas aussi repliée que le pensaient les attaquants, et le coup de main audacieux s'est un peu retourné contre ses auteurs. C'est-à-dire que pour attaquer, il avait fallu s'avancer très vite avec la cavalerie, sans attendre les grosses communes flamandes, et les attaquants, Othon et le comte de Flandre, se sont trouvés face à une riposte beaucoup plus forte que ce qu'ils avaient attendu.
Oui, ils pensaient s'en prendre à quelques retardataires, et en fait, l'autre côté, on l'a pris comme une véritable attaque, riposte a été importante.
Ils ne pensaient probablement pas avoir affaire au roi lui-même. Ils pensaient que le roi était plus avancé que ça, mais le roi avait 50 ans, il avait chaud, il avait cassé la croûte, il s'était un peu attardé en cassant la croûte sur le parvis de l'église de Bouvines, et c'est sans doute à peu près ça qui s'est passé, mais on ne le sait pas très exactement. On a plusieurs récits un peu concordants, un peu concurrents, hein, mais c'est très difficile d'avoir l'exactitude complète.
Mais alors justement, quelles sont les sources sur cette bataille?
Alors les sources sont quand même assez nombreuses, c'est un dossier particulièrement beau, il y en a peu d'aussi bien. Un an auparavant, il y a eu une bataille très importante dans la région de Toulouse, c'est Muret, entre la croisade albigeoise de Simon de Montfort et une coalition du comte de Toulouse et du roi d'Aragon. Et Simon de Montfort a gagné, mais nous connaissons beaucoup moins bien, nous avons quelques éléments, mais nous connaissons beaucoup moins bien la bataille de Muret que celle de Bouvines. Donc Bouvines Sabine est quand même mieux connue que d'autres parce que Philippe Auguste avait de bons propagandistes et historiens, et notamment un poète et prosateur en latin, originaire du Trégor, Guillaume le Breton, qui lui a fait en sa faveur un très beau récit de Bouvines, d'abord en prose, dans une histoire, Gesta en latin, de Philippe Auguste, puis avec plus d'élan, un peu plus de licence poétique, mais pas complètement déconnecté, avec la Philippide. Donc c'est quand même le récit de référence pour l'histoire de Bouvines. Il est corroboré du côté capétien, donc de Philippe Auguste, par quelques bouts de chronique. Et puis, il y a tout de même au moins 4 ou 5 auteurs qui sont indépendants de Guillaume le Breton, semble-t-il, qui donnent chacun un aperçu différent, mais souvent intéressant.
Mais qui sont français aussi.
Alors, pas tous, qui sont plus ou moins français, parce qu'il y a un petit malin qu'on appelle l'anonyme de Béthune, qui écrit pour faire plaisir aux deux camps, c'est-à-dire une espèce d'œuvre qu'on peut lire des deux côtés, qui va plutôt expliquer que ça s'est passé entre gens de bonne compagnie. Tout le monde a été assez bon, au fond.
Mais c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi, quand même, quand on se plonge sur les sources que vous citez, celles de Guillaume le Breton. C'est quelque chose où il n'y a pas vraiment d'acrimonie. On valorise très clairement un camp, mais il n'y a aucune haine.
Non,
ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait dire sur une guerre quelques siècles plus tard.
On ne peut pas dire qu'il y ait de la haine, et même dans sa version en vers du récit de Bouvines, la Philippide, et à un moment, il s'amuse à en faire un petit peu une vraie confrontation entre Français et Allemands. Ça va être très utilisé au XIXe siècle, très, très exagéré, et même dès le XVIIe, en fait. Mais pour Guillaume le Breton, ça reste clairement un match entre la chevalerie française et quelques chevaliers allemands. Guillaume le Breton charge Othon qu'adversaire de l'Église, mais dit beaucoup de bien, en réalité, de 4 barons et comtes allemands qui entouraient Othon, qui ont couvert sa fuite, et on sent que ces garçons-là, une fois faits prisonniers, ont été plutôt bien traités. Ils ont été emmenés à Paris, mais on a dû discuter de chevalerie avec eux d'une manière plutôt aimable, alors que les vassaux rebelles appartenant au royaume de France, comme le comte de Boulogne et le comte de Flandre, ont quand même été beaucoup plus durement traités. Donc, s'il y avait de la haine, ou en tout cas de l'acrimonie, c'est pas contre les quelques bons compagnons allemands d'Othon que ça se porte, mais c'est contre les vassaux rebelles, on peut le comprendre d'ailleurs.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que le déchaînement ne se fait pas contre un prétendu ennemi héréditaire en raison de sa race ou de sa nation. Il est dirigé contre des gens qui ont violé les principes féodaux et médiévaux, enfin, en tout cas de leur point de vue.
Voilà. Et Philippe Auguste, pour sa politique, sait très bien qu'il n'a aucun projet d'extension en direction de l'Empire, il n'a absolument aucun projet de changer les frontières nationales. Par contre, il a le projet de renforcer son pouvoir en France et donc de mettre au pas les barons rebelles que sont... Le comte de Boulogne l'agace tout particulièrement parce que c'est Renaud de
Dampmartin. Il faut en parler un peu.
On va en parler. Donc c'est le traître caractéristique dans l'esprit de Philippe Auguste. Le comte de Flandre est sans doute un peu moins coupable, mais enfin, c'est vrai que Philippe Auguste a l'intention de le frapper beaucoup plus durement qu'Othon. Sans doute, Philippe Auguste a-t-il même donné l'ordre, plus ou moins à mot couvert, qu'on laisse partir Othon. Il n'avait pas tellement envie de le capturer. Il aurait été très embarrassé d'avoir Othon comme prisonnier. Alors que l'objectif, le meilleur, essentiel et la solution la meilleure pour lui, c'était de repartir avec le comte de Flandre et le comte de Boulogne prisonniers. C'est une bataille, une victoire au résultat parfait. Ni trop, ni pas assez. Il a fait prisonnier les 2 barons rebelles, il les tient, il ne va pas les lâcher tout de suite, et comme ça, il les tient un petit peu en otage de l'allégeance de leur région pour plusieurs années.
Quand vous exprimez cela, deux idées me viennent. La première, c'est qu'il y a une forme de sagesse politique, malgré tout.
Ah, certainement, il était très fort, ça.
Et notamment dans sa retenue.
Ah oui.
J'aurais aimé que d'autres, plus tard, aient autant de retenue.
Ah oui, oui, mais d'ailleurs, on l'a souvent opposé à Napoléon en disant du bien de lui par rapport à Napoléon, hein, au XIXe siècle.
Alors, pour continuer à opposer ces deux univers, à plusieurs reprises, vous dites l'objectif, c'est de capturer. Alors ça, c'est évidemment une forme de surprise. C'est-à-dire qu'on s'est quand même habitué à ce qu'à la guerre, on tue. On tue, ou on, même si ce n'est pas un but en soi, on ne se retient pas de tuer, et ça fait partie du processus normal de tuer à la guerre. Et en vous lisant, on constate que non, pas du tout. À cette époque, c'est plus de capturer, d'obtenir un résultat de prestige, une démonstration de force, ça suffit.
Oui, du moins, alors ça, non seulement c'est bien expliqué aussi dans le Bouvines de Georges Duby, mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, plusieurs auteurs, notamment Sismondi, avaient bien expliqué le problème. En réalité, depuis plusieurs siècles, les chevaliers sont très difficiles à tuer. D'abord, c'est très difficile techniquement de tuer un chevalier, surtout de haut rang, parce qu'il a une armure forte, et il a un blindage très puissant. Donc c'est difficile techniquement. C'est dangereux socialement, parce qu'à la différence de ce qui se passe dans nos guerres modernes, si vous tuez quelqu'un à la guerre, et si vous êtes identifié comme celui qui l'a tué, eh bien vous vous heurtez à un droit de vengeance de sa parenté. Il faut régler ça. Ça se règle peut-être, mais ça coûte très cher en dédommagement, en perte. Hein. Donc on n'a pas intérêt à tuer des gens importants. Et en outre, il y a quand même une censure ecclésiastique, enfin une critique chrétienne du meurtre entre chrétiens. Il ne faut pas oublier que la chrétienté latine a perdu Jérusalem en 187, que la reprise de Jérusalem reste à l'ordre du jour. Saint Louis, le petit-fils de Philippe Auguste, va en faire son objectif principal. Et que la guerre entre chrétiens, ça fait désordre. Alors si en plus on se tuait entre personnes de haut rang, rien n'irait plus. Alors, mais même parmi les soldats, sergents à cheval ou à pied, qui sont de moindre niveau social, même si là, il y a un certain nombre de morts, on n'a probablement pas de grandes hécatombes dans les batailles. Mais il y a quand même sûrement des morts à Bouvines, et dans cette catégorie de combattants. Et Guillaume Le Breton parle quand même de 700 morts parmi les piétons brabançons qui sont restés, qui n'ont pas pu fuir le champ de bataille. Une difficulté aussi de tuer un chevalier, c'est qu'il, tant qu'il est à cheval, il peut s'enfuir. Hein. Mais on n'est même pas sûr que les 700 brabançons aient tous été tués, finalement.
Alors les piétons ou la piétaille, je ne sais pas comment il faut l'appeler, les deux peut-être.
Oh, les deux.
C'est quand même davantage une préfiguration d'une armée... moderne. Enfin, je parle pas des piétons qui accompagnent les chevaliers, hein, mais les milices communales, en quelque sorte.
Oui, oui.
Ça ressemble déjà plus à une armée moderne. Est-ce qu'elles combattent de la même façon, ou est-ce que les morts se font justement davantage à ce niveau-là?
Alors, déjà, ce qui est très désagréable pour les gens de bonne compagnie, c'est les archers et les arbalétriers. Hein. Ce qui contredit complètement les règles de la chevalerie, c'est ces carreaux d'arbalète qui sont une arme du diable. Alors là, il ne faut pas aller raconter au pape ou à un légat qu'on a utilisé une arbalète dans une guerre entre chrétiens. Et parce que là, ça peut même tuer un chevalier tellement l'impact est fort. Et donc, déjà, ce qu'il y a de sympathique à Bouvines, c'est qu'il n'y a pas d'archer, comme dans les autres batailles. On a des couteaux avec lesquels on tue les chevaux. Et c'est la meilleure manière de désarçonner des chevaliers. Les piétons, en réalité, donc Philippe Contamine, qui est un grand historien de la guerre au Moyen-Âge aussi, membre de l'Académie des inscriptions, aime à expliquer. Je crois, bien sûr, c'est un point auquel on ne pense pas suffisamment. Comme les piétons, eux aussi, peuvent disposer d'armures assez fortes, qu'ils ont des techniques de combat avec des piques efficaces pour se défendre, et qu'eux non plus ne sont pas forcément si faciles à tuer. Et puis, il y a une catégorie de combattants intermédiaires, sur laquelle Philippe Contamine a bien, bien mis l'accent. C'est ceux qui peuvent tantôt être à cheval, tantôt être à pied. Hein, donc, sergent à cheval, un petit peu une espèce de troupe amphibie.
Très bien. Alors, c'est une victoire politique. On a le sentiment que cette victoire politique, c'est une victoire sur le terrain, qu'elle permet voilà, une victoire réelle, mais que c'est aussi une victoire symbolique. Dont Philippe Auguste va user pour affermir son autorité à l'intérieur du royaume en faisant le plus de possibilités de publicité possible. Est-ce que c'est bien cela? Et est-ce que le récit de Guillaume comment va être exploité ce récit de Guillaume le Breton, d'une part, mais aussi peut-être d'autres éléments pour faire connaître cette victoire et en donner la lecture qui lui convient? Comment cela se passe-t-il concrètement?
Alors, effectivement, il y a une propagande qui a l'air d'avoir été assez bien organisée, qui ne tient pas seulement à Guillaume le Breton. On sait que Philippe Auguste a écrit à toutes les églises royales, en tout cas au moins jusqu'à la Touraine, de célébrer sa victoire. Et d'autre part, il y a eu une organisation d'une espèce de défilé de la victoire, de triomphe. C'est pas tout à fait à la romaine, hein, mais enfin, on a quand même exhibé les prisonniers sur le chemin du retour, et en particulier le comte de Flandre, Ferrand, à qui la populace, d'après Guillaume le Breton, le mot est célèbre, disait « Te voilà ferré, Ferrand ». Alors, c'est un très bon jeu de mots, parce que non seulement c'est un calembour sur le son, mais c'est aussi un calembour sur le sens, parce que Ferrand, c'est une couleur de cheval. Hein. Un cheval gris est un cheval Ferrand, et le baron rebelle est comme un cheval rétif à son maître, donc on devait vraiment hurler de rire dans les chaumières et dans les salles de château avec « Te voilà ferré, Ferrand ». Bon, moi, quand j'étais petit et que mon père me racontait ça, en effet, « Te voilà ferré, Ferrand », ça me réjouissait beaucoup. Et ça apprenait ce qui arrive quand on se révolte contre son seigneur, voire contre son père.
Hein, l'autorité, etc. Quelle
voilà,
qu'elle soit.
Contre toute autorité.
Le maître,
bon,
le père.
Mais alors, si on regarde de plus près, on se dit qu'au fond, le problème de Philippe Auguste, c'est qu'il n'a quand même pas conquis la Flandre. Hein, en réalité, il s'est heurté à une Flandre insoumise, comme nous dirions. Il n'arrivait pas, il avait beau l'occuper militairement. Et même vainqueur à Bouvines, ben, en fait, il a été obligé de revenir à Paris. Hein. Il y a d'autres victoires après lesquelles on avance et on fait la conquête de quelque chose. Mais Philippe Auguste ne peut pas conquérir la Flandre. Donc, en réalité, politiquement, sa victoire n'est pas totale. Donc, en réalité, alors, c'est pas mal d'avoir le comte prisonnier parce qu'il va neutraliser la Flandre pendant assez longtemps. Mais enfin, c'est pas un grand
triomphe. Oui, la Flandre reste la Flandre.
Voilà, voilà. Alors qu'il avait conquis la Normandie 10 ans plus tôt, sans grande bataille. Avec la prise de Château-Gaillard, mais sans grande bataille. Donc, il faut aussi dire que c'est très bien, dire que Dieu l'a protégé, qu'il a été en difficulté, que la coalition voulait le tuer, voulait se partager son domaine, ce qui est sans doute faux, parce que, d'une certaine façon, il y a un demi-échec à masquer, une grande victoire sur le terrain pour masquer un demi-échec politique.
Donc ça devient une guerre parfaitement défensive, alors que c'est pas tout à fait.
Bah non, oui, c'est ça, voilà, exactement, c'est pas tout à fait le cas.
Moi qu'on puisse dire.
Ah oui.
Et ensuite, on insiste sur une sorte d'élection divine, parce que, mais par des éléments qu'il faut peut-être décrypter, c'est-à-dire qu'on explique qu'il est tombé de cheval,
oui.
Qu'on a voulu le tuer, ce qui oui. Est vraiment le crime abominable, j'imagine, puisqu'on ne peut pas tuer.
Ah oui, oui, là, ça, tuer un roi, ça.
Oui, tuer un chevalier à terre, déjà, c'est pas très élégant, mais alors un roi, c'est évidemment dramatique, mais qu'il aurait été sauvé. Par sa bravoure et par la bravoure de ses compagnons, c'est ça ?
Oui, c'est ça, et puis par la protection de Dieu, comme Clovis a vouillé en 509, déjà, ou 507, là, c'est une bêtise. Bon, mais en tout cas, il est évident que c'est un thème majeur de dire que le roi de France est protégé par Dieu, et dès la naissance de Philippe Auguste en 165, qui est un fils que son père a attendu très longtemps, il a fallu qu'il fasse au moins 5 filles et peut-être 6, avec 3 épouses, avant d'avoir enfin un fils en 165. Donc, dès le début, c'est un don de Dieu, c'est une espèce d'enfant du miracle. Et curieux, donc, il va, à la suite de la bataille de Bouvines, avoir frôlé la mort et avoir connu une deuxième naissance. Et cette manière dont il aurait échappé à la mort est célébrée, curieusement, à peu près dans les mêmes termes, de la même manière que sa naissance 50 ans plus tôt. Voilà, donc on est vraiment dans les fondamentaux de la propagande capétienne. Alors,
mais c'est à la fois religieux et quasi anthropologique.
Oui, oui, oui.
Quelque chose de, alors, qui fait appel à des choses très profondes. Quoi.
Sur le problème de savoir si, ce qui lui est arrivé vraiment au cours de la bataille, là, on est quand même un petit peu dans l'incertitude. D'après Guillaume le Breton, il est tombé en étant ensuite exposé à des piétons adverses, peut-être pas allemands, le 19e siècle va les croire allemands, mais en réalité c'était plutôt des Brabançons ou des gens de la Basse-Lorraine. Bon, mais, et donc il est en danger de mort. Il y a quand même 2 autres sources qui disent qu'il est tombé de cheval, effectivement, mais au milieu de ses propres troupes, sans être exposé à l'ennemi. Nous avons donc 2 versions concurrentes, entre lesquelles, objectivement, nous n'avons quand même pas le moyen de trancher. Il faut être quand même prudent, il faut pas non plus... Autrefois, au XIXe siècle, on croyait sans nuance qu'il vraiment été exposé à l'ennemi. Nous aurions tendance à dire, parce que les déconstructions sont à la mode, etc. Voilà, il faut déconstruire Bouvines, donc il faut déconstruire complètement Philippe Auguste. En fait, je n'en sais rien. On ne peut pas exclure absolument qu'il ait été en danger de mort, mais on n'en est pas sûr.
Ou de capture, en tout cas.
Ou de capture, effectivement. Mais on n'en est pas sûr.
Alors, on a vu quels étaient les éléments constitutifs du mythe à l'époque médiévale. Et ensuite, connaître énormément d'inflexions au gré des, oui, au gré des intérêts géopolitiques ou des sensibilités de l'époque. Est-ce qu'on peut en faire une rapide généalogie ?
Oui, alors donc, je pense, au début, au XIIIe siècle, tant que l'enjeu de la bataille de Bouvines est encore un petit peu présent, ce qui est souvent en cause, dans ce qui donne lieu un peu à des inflexions, aux premières déformations de la bataille, c'est la relation entre le roi et les barons. Et donc, un certain nombre de barons français, au lieu de faire raconter Bouvines comme le châtiment de mauvais barons, vont avoir tendance au contraire à aimer et à idéaliser la relation de Philippe Auguste avec ses bons barons, avec ceux qui étaient là le jour de Bouvines. Et on voit notamment apparaître, sans doute quand même 40 ans après, hein, c'est pas immédiat, une légende qui reste très populaire parce qu'elle est représentée encore par Horace Vernet au XIXe siècle. Elle est dans la galerie des batailles à Versailles. Philippe Auguste, juste avant la bataille, aurait retiré sa couronne en disant au baron, écoutez, voilà, je ne suis qu'un homme comme vous, je suis même moins bon que vous. Si parmi vous, il y en a un qui est meilleur que moi, j'abdique en sa faveur, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Donc, le renoncement à la couronne, bien entendu, vous parliez de tout à l'heure, c'est du théâtre et dans une légende, hein, parce qu'il n'a sûrement jamais fait ça. Mais donc, une histoire touchante, édifiante, de rois prêts à se démettre et de barons qui lui disent non, non, surtout pas. On dirait Jésus-Christ et ses apôtres. Parfois, on s'avance dans cette direction. Alors là, en faisant attention, parce que le terrain est quand même un peu glissant. Mais donc, la légende de la couronne est très caractéristique d'un Bouvines des barons. Hein. À l'inverse, et sans surprise, au XIXe siècle, quand on commencera quand même à mettre en cause la royauté, et notamment aux abords des Trois Glorieuses et de la Révolution de 1830, c'est un tout autre aspect qu'on va aller chercher dans les récits de Bouvines, c'est-à-dire qu'on va dire c'est la victoire des communes, c'est le premier jour où Philippe Auguste a fait confiance à ses communes. En France, le peuple est plus plus méritant que les élites. Enfin, vous voyez très bien, on est en pleine actualité. Bien entendu.
L'auto-organisation à la base, oui.
Voilà, donc,
populaire.
Okay. On est, dès qu'il est question de Bouvines, en fait, à partir du XIIIe siècle, ça met en cause la question de savoir, assez vite, assez facilement, quel est le bon régime politique. Est-ce que c'est la noblesse qui sauve la France? Est-ce que c'est le peuple?
Ou le roi?
Ou le roi dirigé par Dieu? Enfin, vous voyez, il y a un enjeu fort. Et puis alors, la vision de Bouvines est devenue de plus en plus nationaliste, souvent contre la Flandre, souvent contre l'Angleterre, en insistant sur l'autre aspect de la campagne de 1214, qui est que Jean Santerre, à partir de l'Aquitaine, avait quand même fait un effort en direction de l'Anjou, qu'il avait évité la bataille avec Louis, le fils de Philippe Auguste, hein, et père de Saint-Louis. Et puis ensuite, évidemment, à partir des luttes entre les Valois ou Bourbons et la maison d'Autriche, donc à partir du XVIIe, Bouvines est devenue une bataille franco-allemande qu'elle
c'est
n'avait pas été
au moment.
Voilà, exactement.
Et par la suite, là on est en plein dans la période des États-nations triomphants.
Oui, oui, oui.
À partir de la seconde moitié du XXe siècle, ouais, on rentre dans une autre phase, une autre séquence.
Absolument.
C'est la période dont je parlais en introduction. Oui, pourtant, oui, le souvenir de Bouvines est encore celui de la constitution de cette nation centralisée, dans cette longue marche qui se poursuit encore, d'ailleurs sous la République, etc. Mais aujourd'hui, on est quand même vraiment rentré dans une autre séquence. Que peut-on retenir aujourd'hui de Bouvines, finalement? C'est le rôle de l'histoire n'est pas... Enfin,
bien sûr.
C'est très bien de connaître l'histoire et la vérité des faits, mais on les réinterprète quand même toujours à l'aune de nos valeurs. Et puis surtout, on essaye d'en tirer un enseignement. Aujourd'hui, quelle lecture de Bouvines?
Alors, donc, nous avons à gérer, et c'est ce qui s'est passé en 2014 au 8e centenaire, nous avons à gérer le passé récent et notamment toute cette utilisation très nationaliste, qui avait été faite entre 1871 et 1914. Et lors du 8e centenaire, la commémoration de Bouvines s'est quand même un petit peu mélangée à la commémoration de la guerre de 14-18. Il y avait eu des discours très nationalistes, encore qu'avec certaines nuances aussi. C'était très nationaliste, mais d'une certaine façon, ça aurait pu être pire en 1914. Et par exemple, l'archevêque de Lille prend la parole en 2014 et parle de la monstruosité qu'est la guerre 14-18 et il se trouve obligé de faire un sermon dans une église où on avait fait des vitraux quand même assez belliqueux entre 1886 et 1900. Donc je crois que, et ça a été extrêmement bien fait par le maire de Bouvines en 2014 et par d'autres autorités et historiens, membres de la société civile, je crois que nous avons à dédier la commémoration, s'il doit y en avoir une, à la jeunesse, à l'Europe et à la paix. Ça rappelle pour ceux qui auraient besoin de l'entendre que l'Europe est là tout de même pour nous épargner des catastrophes comme celle de 1914 et des sottises comme la transformation nationaliste de bataille médiévale qui ne le méritait pas. Hein. Mais alors donc, on voudrait que ce ne soit pas nécessaire de le redire, mais après tout, ça va sans doute mieux en le redisant. Hein. Mais donc, moi je pense qu'on n'a pas forcément besoin de trop parler de Bouvines. Enfin, mais naturellement, je pense qu'il faut que l'histoire de France... en tant que partie de l'histoire de l'Europe, et l'histoire de l'Europe en tant que partie de l'histoire du monde, soit enseignée aux enfants et aux élèves des écoles et de l'enseignement secondaire, et qu'on arrive quand même à leur faire passer, vraiment à nouveau dans le sillage du Bouvines de Georges Duby, je suis tout à fait dans la même perspective, à leur faire passer à la fois des éléments sur ce qui s'est passé en 1214 et des éléments sur ce qui en a été fait après. Étude critique de l'histoire d'une part et de la légende d'autre part.
Parce que moi, à l'issue de votre livre, j'ai plutôt le sentiment que ce qui était embarrassant, c'était la lecture postérieure, mais que finalement, la bataille de Bouvines elle-même, et les valeurs et les faisons, dont, la façon dont, malgré tout, les enjeux nationaux se gèrent, car il y a quand même, malgré tout, au-delà des liens de vassalité, un vague sentiment national qui émerge.
Vous citez le cas d'un,
je ne sais plus quel comte flamand crie « à mort les Français ».
Oui, tout à fait.
Là, il est tout de suite, littéralement assassiné
par
ses adversaires, car il a enfreint la façon justement de régler les conflits.
Tout à fait, tout à fait.
Et donc tout cela pour en venir à cette idée, c'est que les valeurs, pour une part d'entre elles en tout cas, les valeurs médiévales et les façons de régler, de réguler les conflits, n'est-elle pas éventuellement une source d'inspiration alternative à la vision nationaliste qui a prévalu au 19e et jusqu'au 20e.
Il est certain que on a eu tendance à penser que la société médiévale était d'une violence déchaînée, alors qu'en réalité, faut pas non plus l'idéaliser, il y avait quand même une domination sociale du guerrier, et de supposer qu'il y a un certain nombre de guerres, sans un minimum de guerres, l'ordre social aurait eu du mal à tenir, c'est quand même une dimension aussi, mais néanmoins, cette classe guerrière largement dominante, pas uniquement, mais elle savait aussi économiser sa violence, et elle avait davantage besoin qu'on récite des chansons de gestes et de s'assimiler à des héros de chansons de gestes que de batailles réelles. Parce que d'ailleurs, dans les batailles réelles, dans les combats réels, on s'apercevait qu'elle ne dominait pas les choses d'une manière absolue. À Bouvines, on s'apercevait que les piétons étaient capables de tenir en échec la cavalerie. Donc, la classe féodale avait plutôt besoin de bonnes petites chansons de gestes où là, il n'y a pas de problème, tout est maîtrisé, les héros sont les chevaliers, que de batailles dans lesquelles on voyait émerger la force de catégories sociales différentes. Et puis, même dans les chansons de gestes, si vous les regardez de près, vous apercevez qu'il n'y a pas que la vengeance et la guerre, et que ça porte aussi la trace d'un certain sens de la négociation, d'un certain sens du compromis qui n'était pas toujours aperçu par les lecteurs d'autrefois.
Écoutez, je pense que c'est une excellente conclusion et une excellente incitation pour nos lecteurs à se plonger dans ce livre épais mais passionnant, écrit dans un style vif et tout à fait compréhensible par des historiens novices ou même par des simples citoyens, car ils y trouveront non seulement le plaisir de découvrir la véritable histoire de la bataille de Bouvines, démêler, comme on l'a dit, la part de la légende et celle de l'histoire, mais aussi des occasions de réflexion sur les enjeux d'aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique Barthélémy, je reprécise donc les références de votre ouvrage, La bataille de Bouvines, histoire et légende, chez Perrin. Merci encore.
Merci beaucoup. Thank you.